Bonjour à toutes et à tous, toutes et à tous ceux que je n'ai pas encore salués. On va prier. Merci Seigneur pour la louange que tu as permis ce matin, pour la louange que nous sommes venus te donner. Merci d'avoir conduit Anne-Marie pour nous guider dans cette louange. Merci de nous avoir rappelé que c'est toi qui bénis. Merci de nous avoir rappelé que tu donnes et que tu reprends. Que béni soit ton nom. Père, que ta parole soit donnée ce matin. Conduis-moi. Amen. Est-ce que quelqu'un qui n'est pas au courant du sujet de la prééducation pourrait me dire quel homme est représenté sur cette gravure ? Oui. C'est bien Job. Qui est représenté sur cette gravure. Alors certains pensent que Job est un personnage de fiction imaginé par un auteur anonyme afin d'écrire un livre de sagesse pour enseigner sur la souffrance du juste. D'autres, toujours dans l'idée de fiction, pensent qu'il s'agit d'un écrit datant entre 500 et 600 avant Jésus-Christ, après l'exil, ayant pour but d'enseigner le peuple d'Israël. Alors, fiction ou réalité, peu importe finalement, car Job, en tant qu'image du fidèle qui souffre, c'est vous et moi. Job était sans doute un très riche bédouin, l'homme le plus riche de la région de l'Est du Jourdain, nous est-il dit. Région d'Édom, sans aucun doute. Et il vivait en fait une partie de l'année comme nomade. On nous a dit qu'il était grand propriétaire des troupeaux. Et l'hiver comme sédentaire ou citadin, occupant certainement des hautes fonctions dans sa ville de résidence. Peut-être en était-il le chef, voire même le fondateur. On retrouve en fait ce mode de vie dans plusieurs autres passages de l'Écriture, notamment en Genèse 34, en Ézéchiel, dans le livre des Juges ou même d'Ésaïe. Alors, on peut distinguer trois passages dans le livre de Job. Le premier passage, c'est le dialogue dans les cieux, c'est là où le sort de Job, en fait, est discuté dans les plus hautes instances célestes, entre Dieu et Satan. Ce sera l'objet de la prédication de ce matin. Le passage qui suit la prise de décision dans les cieux et qui met en scène les trois amis de Job, passage occupant en fait la majeure partie des 42 chapitres du livre, ce passage fera l'objet du seconde prédication, pas ce matin. On pourrait l'intituler « Dialogue sur terre ». Et enfin, le moment où Job est rétabli dans sa dignité après un parcours très douloureux, un parcours qui l'aura fait grandir spirituellement, qui ne sera pas traité non plus aujourd'hui, passage qui se réfère au dialogue entre Dieu et Job. On pourrait intituler « Dialogue entre ciel et terre ». Pour ce qui est de ce matin, nous allons voir ensemble plusieurs choses. Mais s'il y en a une seule qu'il faut que nous retenions, c'est quelle est notre motivation pour servir Dieu ? Pourquoi je suis fidèle à Dieu ? C'est cette question-là avec laquelle je voudrais qu'on reparte ce matin. L'histoire de Job, c'est l'histoire d'un pari ou d'un défi qui en fait n'en était pas un. Accusation. Or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan. Et Satan répondit à l'Éternel.
De parcourir la terre et de m'y promener.
L'Éternel dit à Satan.
As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu, et se détournant du mal.
Et Satan répondit à l'Éternel.
Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu ? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui ? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face.
L'Éternel dit à Satan.
Voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement ne porte pas la main sur lui.
Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Au-delà des difficultés que ce texte suscite, ces quelques versets appelle trois remarques. Premièrement, au conseil de l'Éternel, il ne semblerait pas qu'on traite des affaires célestes ici, ou en tous les cas, pas uniquement. Ici, l'ordre du jour du conseil de l'Éternel ne semble pas être les anges, mais les hommes. Et Job est cité comme exemple de fidélité. Le deuxième point, c'est que sur cette mise en avant de la fidélité de Job par Dieu, Satan se présente et défie l'Éternel. En fait, il semble attribuer l'intégrité de Job à l'abondance et à la protection que lui offre Dieu. Et c'est là le point central de la prédication de ce matin. Le troisième point, ici, c'est que le sort de Job se joue dans les plus hautes instances célestes sans que lui-même n'en soit au courant. Alors revenons un peu plus sur ces trois points. Premièrement, sur le fait qu'au conseil de Dieu, Job soit remarqué, c'est quand même fort inspirant. Dieu ne fait pas remarquer combien Job, en fait, est riche, combien Job est influent. Combien Job est apprécié des hommes ? Non, Dieu fait remarquer combien Job est fidèle, droit et juste. En fait, il fait remarquer combien Job est proche de lui. Qu'en est-il de nous ? Notre fidélité à Dieu, notre intégrité dans sa parole, notre droiture dans ses commandements, sont-elles remarquées par Dieu ? Sont-elles remarquées par Dieu au point qu'il en soit question dans les lieux célestes ? Que cherchons-nous ? À être remarqués sur terre ? À nous attirer l'admiration des hommes ? Ou à plaire à Dieu ? L'un et l'autre ne sont pas toujours incompatibles. Mais quelle est notre réelle priorité ? Les hommes ou Dieu ? En Matthieu 18,4, on lit ceci. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Visiblement, ce n'est pas les richesses. Ce ne sont pas les richesses, ni le bonheur, ni même la bonne santé qui sont importantes pour Dieu. Car tout ceci, Dieu le donne ou non à qui il veut et à la mesure qu'il estime juste. Ensuite, on a vu que Satan venait pour accuser. Et Satan, Olivier nous l'a rappelé là, il y a quelques semaines, Satan, en fait, ça veut dire l'accusateur. Et il vient discuter du sort de Job. Et le sort de Job, tout comme le nôtre, est parfois discuté, visiblement, dans les lieux célestes. En fait, le cas de Job ici n'est pas un cas isolé dans la parole de Dieu. Il y a au moins deux autres passages dans l'Écriture où on a le même type de scène. Il y a Zacharie 3 et il y a dans le livre de l'Apocalypse aussi un passage similaire. Alors, ici, Satan se rend auprès de l'Éternel pour accuser le serviteur de Dieu. On voit ici, en fait, que là-haut, il est question du sort des serviteurs de Dieu. Et ça, sans que nous en soyons nécessairement informés. Cela me fait penser à une écriture de Paul. Le combat, comme le dit l'apôtre, est spirituel. Aussi, vous pouvez lire en Éphésiens 6, 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Accusation. Si vous êtes fidèle à Dieu pour être accusé devant lui par le plus malin de tous les accusateurs, Satan, dont c'est le job à plein temps, il n'hésitera pas à mettre en avant vos faiblesses et vos chutes, mais n'ayez crainte, frères et sœurs. Le sang de Christ vous rend juste devant Dieu. Le sang de Christ vous rend juste devant Dieu. N'ayez pas peur de vos faiblesses, n'ayez pas honte de vos chutes. 1 Jean 2, verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Accusation, oui, mais quelle est cette accusation que formule Satan? Il semblerait que l'accusation de Satan porte tout simplement sur la réelle fidélité de Job. Job est fidèle, oui, mais il l'est car tu le bénis. Retire-lui tout ce que tu lui as donné et il te maudira en face. Pour faire simple, c'est parce que Job est prospère qu'il t'est fidèle. Et Dieu va accepter que Job soit la cible de la tribulation satanique. Tribulation. Si Satan est un fin accusateur, c'est aussi un dangereux passe à l'acte. Et en matière de tribulation, il semblerait que Satan tienne ses promesses. Un jour, que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit « Les bœufs labouraient, les ânesses paissaient à côté d'eux. Les Sabéens se sont jetés dessus et les ont enlevés. » Qu'ils ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. Parlait encore, lorsqu'un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore, lorsqu'un autre vint et dit, des Chaldéens formés en trois bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. Et voici, un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les quatre coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. J'ai sauté le verset 18, désolé. Ici, Satan frappe très vite et très fort. Alors pourquoi tant de souffrances permises par Dieu? Quel est l'objectif de Dieu lorsqu'il laisse le diable se déchaîner contre son serviteur Job? Quel est l'objectif de Satan? À première vue, il semblerait que ce soit la fidélité de Job qui soit la cause de toute cette souffrance. Je dirais que la souffrance, à travers l'exemple de Job, montre qu'elle est une composante pas inévitable, mais importante, parfois inévitable, pour la sanctification du fidèle. Et le Christ l'a dit lui-même. Celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. On lit ceci en Matthieu 10, 39. Et c'est tellement important que Jean en remet une couche. Jean 12, 25. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Vous êtes paisible et heureux? Et tout vous réussit? Jusqu'à quand, frères et sœurs? Deux cas se posent, même si l'intermédiaire semble plausible. Premièrement, vous êtes béni comme Job, et un jour, vous serez éprouvé durement. Peut-être l'avez-vous déjà été. Mais la tribulation ne sera que l'occasion de montrer votre vraie fidélité à Dieu. L'occasion pour lui de vous élever spirituellement, afin de faire de vous des serviteurs encore plus consacrés à son œuvre que vous ne l'êtes déjà. Ou vous aurez vécu toute votre vie tranquille et paisible. Alors, j'ai la crainte que vous n'ayez été oublié par Satan, car oublié par Dieu. Je veux dire par là que Satan ne prêtera pas attention à vos murmures qui chuchotent que Jésus-Christ est votre sauveur. Et aux actes qui démontrent peut-être même le contraire. Le diable vous laissera tranquillement faire votre petite vie tant vous êtes inoffensif et il sourit. Vous ne serez pas bousculé par l'accusateur car il attendra tout simplement que vous soyez rejeté. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni brûlant, je te vomirai de ma bouche. Apocalypse 3, 16. Comment prétendre suivre le Christ sans avoir à faire des sacrifices? Comment prétendre suivre le Christ sans avoir à faire face à la tentation et au péché? Comment prétendre suivre le Christ sans parfois souffrir? Notre Sauveur n'aurait-il pas été tenté? N'aurait-il pas souffert lui-même? Comme nous l'a enseigné Philippe il y a quelques dimanches, nous sommes des petits Christ, des chrétiens ou des chrétiens. En grec, témoigner se dit martouréo, c'est le verbe martouréo qui a donné après martouros pour témoin. En fait, littéralement, témoigner, c'est être des martyrs du Christ. Suivre Dieu, c'est s'exposer à ce qui nous élève durement, mais pour notre bien. Mais c'est aussi s'exposer aux attaques du diable. Ayons confiance que nous ne serons jamais tentés au-delà de notre force. Que notre force, nous la puisons en Christ. Et que si nous sommes éprouvés, c'est sans nul doute que nous sommes sur le bon chemin. Aussi, à celui qui souffre au nom de Dieu, il importe moins de savoir pourquoi il souffre que de considérer que Dieu peut faire pour lui ce que Dieu peut faire pour lui dans sa situation de détresse. Et surtout, combien Dieu le fait grandir à travers son épreuve. En sachant que Christ a tout vaincu à la croix. Christ a tout vaincu à la croix, à commencer par les accusations de Satan portées contre nous. Enfin, ici, on voit que Satan est puissant, mais qu'il n'est pas tout puissant. Ce passage de l'Écriture montre bien sa soumission à l'autorité divine. Dieu encadre son action. Et moi, je trouve ça très rassurant. Je trouve ça rassurant de savoir que Dieu contrôle toute chose. Il permet la souffrance, même par le bras de l'adversaire, mais il ne nous abandonne pas, même si nous avons l'impression qu'il reste silencieux. Dieu pose des limites au déchaînement du diable. Et le diable ne sort pas de ce cadre. Il ne lui viendrait même pas à l'idée de les dépasser. Et en cela, le premier chapitre du livre de Job montre toute la majesté et toute la gloire de Dieu. Saint Augustin a écrit : si les démons ont quelque pouvoir dans l'ordre temporel, ils n'en ont qu'autant que la secrète volonté du Tout-Puissant leur en permet. Alors Satan en défie Dieu et espère bien faire tomber Job. Pour l'accusateur, le mieux, je crois, serait que Job intente lui-même à sa propre vie. Parce que, rappelons-le, Satan n'a pas été autorisé à porter atteinte à la vie de Job. Pousser Job à maudire Dieu, puis se suicider, là est le vrai but de Satan. Et quand Dieu accepte, en fait, si cela semble être un défi ou un pari, du point de vue de l'adversaire, pour Dieu, c'est un investissement. Exactement, c'est un investissement que Dieu fait, un investissement spirituel. Parce que Dieu, comme l'a formulé tout à l'heure Eric, Dieu connaît toutes choses. Dieu sait tout. Dieu sait que Job restera fidèle. Aucune ambiguïté sur la fidélité de son serviteur. Mais l'occasion ici d'affermir Job encore plus qu'il l'est déjà. L'occasion ici de rapprocher son serviteur encore plus proche, encore plus près de lui. Et d'être un Dieu encore plus fier de sa créature qui aura grandi spirituellement. Pour aller jusqu'au bout du raisonnement, il semblerait que la souffrance et la tribulation aient une cause spirituelle et que ce soit l'occasion d'un combat spirituel. C'est visiblement le cas pour Job, c'est aussi ce que nous avons lu dans Éphésiens. Fidélité. « Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna et dit :
Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni.
En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Ce sont les trois versets qui montrent la fidélité de Job. Et Job, malgré la tribulation, reste ferme dans ses positions. Il montre ici une chose importante. Il ne sert pas Dieu par intérêt, mais avec humilité. Job est riche, oui, mais il sait d'où vient sa richesse. Et il sait d'où lui-même vient. Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Là où sera ton cœur, là sera ta vraie richesse. C'est là le point central du livre de Job, selon moi. Le défi qui lui est donné, à travers la souffrance immense qu'il subit, et elle sera encore plus grande, c'est là le défi pour sa vie. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Job ne sert pas l'Éternel car il est riche, contrairement à ce qu'affirmait le diable, non. Job sert l'Éternel car il aime Dieu. Et c'est pourtant l'argument de Satan de dire que Job est fidèle au Seigneur car il est richement béni. Il estime que la fidélité de Job est conditionnée par le bien-être que Dieu lui prodigue. Mais Job tient le choc face à la tribulation. Face à cette première vague de tribulation, Job tient ferme. Dieu est-il un distributeur à bénédiction contre lequel vous allez vous fâcher lorsque la bénédiction ne tombera pas, ou alors que vous aurez fait preuve de piété? Allez-vous bousculer le distributeur pour faire tomber la bénédiction? Ce pourquoi vous avez payé? On n'achète pas Dieu avec une piété superficielle qui s'efface à la première difficulté, ni à la seconde. Job semble avoir compris cela, et pourtant, il n'est pas au bout de ses peines. Venez-vous auprès de Dieu uniquement pour recevoir? Ou alors, venez-vous près de Dieu sans rien attendre que sa grâce et son amour qui vous comblent bien plus que tous les bienfaits que vous pourriez recevoir de sa part? Ce livre de Job, et on le voit dès ce premier chapitre, met en avant le thème de la fidélité à Dieu et plus particulièrement des motivations qui nous animent pour servir Dieu. Alors, je vais vous lire. C'est un extrait du sermon que Pagnol a fait dire au curé de Manon des Sources. En fait, là, c'est le moment où la source ne donne plus d'eau. Et en fait, tout le village est rassemblé pour la messe. Quand j'étais jeune, nous avions un cousin qui s'appelait Adolphin. Il ne venait jamais nous voir, ni pour les fêtes, ni pour les naissances, et même pas pour les morts. Mais de temps en temps, j'entendais mon père qui disait « Tiens, voilà la dolphin qui s'amène. Il doit avoir besoin de quelque chose. » La dolphin montait le sentier, tout habillé des dimanches. Il nous faisait des amitiés, des compliments, et il parlait de la famille à vous mettre des larmes aux yeux. Et puis, au moment de partir, quand il avait embrassé tout le monde, il disait « À propos, Félicien, tu n'aurais pas une charrue de reste ? J'ai cassé la mienne sur une souche d'olivier. » Une autre fois, c'était un fagot de sarment pour ses greffes, parce que mon père faisait un vin fameux. Ou alors, son cheval avait des coliques et il fallait lui prêter le mulet. Mon père ne refusait jamais, mais je l'ai souvent entendu dire « La dolphin, c'est pas un beau caractère. » Bien, mes amis, ce que vous faites aujourd'hui au bon Dieu, c'est le coup de la dolphin. Il ne vous voit presque jamais, et brusquement vous arrivez, les mains jointes, le regard ému, tout estranciné de foi et de repentir. Allez, allez, bande d'adolphins. Il ne faut pas vous imaginer que le bon Dieu est plus naïf que mon pauvre père et qu'il ne vous comprenne pas plus, pas jusqu'au fin fond de votre petite malice. Il sait très bien, le bon Dieu, qu'il y en a pas mal ici, qui ne sont pas venus pour lui offrir un repentir sincère ou pour faire un pas de plus dans la voie de leur salut éternel. Il sait bien que vous êtes là parce que la source ne coule plus. Alors il y en a qui sont inquiets pour le jardin, d'autres pour la prairie, d'autres pour les cochons, d'autres parce qu'ils ne savent plus quoi mettre dans leur pastis. Ces prières que vous avez la prétention de lui faire entendre, ce sont des prières pour les haricots, des oraisons pour les tomates, des alléluia pour les topinambours, des hosanna pour les coucourdes. Allez, tout ça, c'est des prières adolphines. Ça ne peut pas monter au ciel parce que ça n'a pas plus d'ailes qu'un dindon plumé. Ce n'est pas dans un but machiavélique que Dieu permet la souffrance par le bras de l'adversaire, mais dans un but d'éducation. Car comme le dit Job, lorsqu'il est restauré par Dieu, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. » J'aimerais vous laisser repartir avec ces trois encouragements, frères et sœurs. Si Satan est puissant, il n'est pas le tout-puissant. Aussi, si vous êtes éprouvé durement, sachez que c'est pour votre édification spirituelle et que vous êtes peut-être marqué par Dieu, qui ne permettra pas que vous soyez tenté au-delà de vos forces. Alors, où se trouve notre véritable trésor ? Quelles sont nos réelles motivations pour servir Dieu ? Ce premier épisode d'un long chemin de souffrance qui attend Job est une synthèse du livre tout entier. Après cette première vague de tribulation, les anges de Dieu en fait se rendent à un autre conseil de l'Éternel et Satan, de nouveau, expose le cas de Job afin que l'Éternel porte atteinte lui-même au corps de son serviteur, jusque-là sauvegardé. Satan, en fait, espère que Job finira par maudire Dieu en face. Puis Job sera tenté par sa propre femme. Lors du prochain épisode, Dialogue sur Terre, nous y verrons Job dialoguant avec ses meilleurs amis au sujet de sa souffrance. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen.